Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes mardi 11 mars 2025, il est 8h à l'Elohoï dans la commune de Bourra, cercle d'Ansongo. Vous nous écoutez sur la radio Koukia. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition matinale dont voici les titres. La circulation de véhicules gros porteurs hors normes sera interdite à partir du 1er avril prochain. L'annonce a été faite par le ministère des Transports et des Infrastructures. 528 Maliens ont été expulsés de Mauritanie, faute de titre de séjour. Le gouvernement œuvre à leur rapatriement auprès de leur famille. Le citron est bien prisé en ce mois de Ramadan en raison de ses bienfaits. Des spécialistes de la santé recommandent sa consommation modérée. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Imran Akilomaïga à la mise en onde Mamadou Ouattara. Le gouvernement du Mali a décidé d'interdire la circulation de véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarits à partir du 1er avril prochain. L'annonce a été faite à travers un communiqué conjoint du ministère des Transports et des Infrastructures et le ministère de l'Économie et des Finances rendu public ce week-end. Une décision qui intervient après 3 mois de sensibilisation. Le point avec Aïssa Tayara.
Cette interdiction de circulation, selon le document, fait suite à une réunion tenue le 8 janvier dernier. Cette concertation organisée par le ministère des Transports a rassemblé les services techniques, les transporteurs, les chargeurs, les transitaires et les commerçants. Les participants à la rencontre ont révélé que la circulation de ces véhicules hors normes et hors gabarits entraîne la dégradation précoce des routes. Pour y résoudre cette situation, on a d'abord recommandé de sensibiliser les parties prenantes pendant 3 mois afin de se conformer au code de la route. Cette période de sensibilisation s'achève le 31 mars prochain. Ainsi, à partir du 1er avril 2025, l'interdiction de circuler pour les véhicules hors normes, hors gabarits et en surcharge entrera en vigueur. Le Conseil des ministres du 12 février, informé de la situation, a approuvé la décision, précise le document. Les ministres des Transports de la sous-région ont été invités à informer leurs transporteurs et chargeurs de l'application de cette réglementation conformément au cadre de coopération communautaire. Les deux ministères maliens ont également chargé leurs services techniques de prendre les mesures nécessaires pour appliquer effectivement cette décision.
Le syndicat national de chauffeurs et conducteurs routiers du Mali, Sinacor, accueille favorablement la décision du gouvernement. Moussa Bagayogo, secrétaire général du syndicat, estime qu'elle profite aux conducteurs et à tous les Maliens. Le Sinacor s'engage à soutenir les autorités et les encourage à assurer la mise en œuvre complète de cette mesure. Moussa Bagayogo est au micro de Aïssa Tayara.
Face à la décision prise par le gouvernement d'interdire les véhicules qui ne sont pas dans les normes, nous, en tant que conducteurs des gros porteurs, je pense que c'est une aubaine pour nous. Car sur le plan de la santé même des chauffeurs, de deux, les impacts que ça peut causer sur les routes, les hors gabarits, c'est des véhicules au fait qui vont jusqu'à 18 mètres, 20 mètres, qui chargent à peu près 120, 140 tonnes. En réalité, qui n'est même pas bien pour les conducteurs. C'est des véhicules qu'ils arrivent à avoir les visites technique. Et c'est des véhicules qui ont toutes les pièces administratives pour pouvoir faire un voyage. Un véhicule qui n'est pas dans les normes, il faudra leur refuser les pièces administratives, telles que la visite technique, telles que la carte de transport qui est là.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Des centaines de Maliens continuent d'être renvoyés de la Mauritanie faute de carte de séjour. Ces expulsions ont débuté le 2 mars dernier. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur confirme l'information et organise leur rapatriement. Les associations de défense des droits humains alertent les autorités mauritaniennes sur ces pratiques envers les communautés étrangères. Les détails avec Sita Sidibé.
Des centaines de personnes de diverses nationalités se trouvent à Gogui, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Elles ont reçu l'ordre de quitter la Mauritanie suite à de nouvelles règles sur les cartes de séjour. C'est ce qu'a annoncé Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, AMU.
Aujourd'hui, la frontière Mali-Mauritanie, précisément à Gogui, il y a toutes sortes de nationalités qui se trouvent là-bas aujourd'hui. Les Maliens et les non-Maliens refoulés par la Mauritanie à travers d'une coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne sur la gestion de la migration. On a fait beaucoup d'alertations avant aujourd'hui.
Du côté des autorités, on estime à 528 le nombre de Maliens expulsés de la Mauritanie la semaine dernière pour absence de carte de séjour. Docteur Boulay Keïta, conseiller technique au ministère des Maliens établi à l'extérieur, affirme que le gouvernement aide déjà les personnes rapatriées. Il les assiste et les accompagne pour retrouver leur famille.
Depuis le 2 mars, il y a un certain nombre d'opérations de retour de nos compatriotes en provenance de la Mauritanie. Donc depuis effectivement un certain nombre de temps, la Mauritanie a pris la décision pour l'ensemble des étrangers qui vivent sur leur territoire, c'est pas que des Maliens, qu'ils invitent les gens à se faire identifier à travers une opération spéciale d'enroulement où ils disposeront des titres de séjour. Là, des initiatives concrètes ont été convenues entre la partie malienne et la partie mauritanienne.
Les autorités maliennes invitent la population à rester calme et à faire preuve de retenue afin de préserver les bonnes relations avec la Mauritanie.
Sur toute autre information, de nombreux jeunes recherchent une saveur acide comme celle du citron ou d'autres ingrédients. Cette saveur est indispensable dans le quinqueliba, le thé chaud ou la bouillie. Bien que les citrons soient abondants sur le marché, certaines ménagères affirment qu'ils sont trop coûteux. Des spécialistes de la santé recommandent leur consommation en raison des bienfaits. Leur consommation modérée en raison des bienfaits mettent en garde contre un usage excessif. Nous en savons plus avec Juliette Koulibaly.
Il est temps pour rompre le jeûne. Sur la table, on trouve le quinqueliba bien dosé, accompagné de citron ou de tamarin, ainsi que du jus de gingembre. Cependant, les jeûneurs préfèrent le goût acide pour rompre le jeûne.
J'aime prendre le quinqueliba et le jus de gingembre à la rupture du jeûne.
Je préfère rompre le jeûne avec le quinqueliba accompagné de citron ou bien avec du Lipton. Mais actuellement, les vendeurs cèdent les 3 unités de citron à 200 francs sur le marché.
Je prends du quinqueliba lors de la rupture du jeûne.
Pour moi, c'est du quinqueliba mélangé avec du jus de gingembre.
Les nutritionnistes affirment que le citron est bénéfique pour l'organisme car il contient de nombreuses vitamines, notamment la vitamine C ainsi que des protéines. Cependant, Rosine Sylvie Ouattara prévient que sa consommation excessive peut entraîner des problèmes gastriques.
Durant la période de jeûne, il y a le sucre digestif qui sécrète beaucoup, mais vu qu'il n'y a rien dans le ventre, ça crée déjà un milieu acide. Quand vous prenez, après la rupture, beaucoup de citron encore, ça vous amène à aggraver le milieu acide au niveau de votre estomac. Et si vous ne buvez pas suffisamment d'eau et que vous remangez encore un aliment très acide, ça favorise les ulcères.
Les spécialistes de la santé recommandent de bien s'hydrater et de consommer des fruits et légumes pour maintenir l'hydratation du corps.
Direction Yoroso, le 9 mars 2025, une quarantaine de représentants de diverses confessions religieuses ont terminé une formation de 2 jours sur le manuel de prêche. Ce document élaboré par le secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent vise à guider les prêches pour éviter les dérives. L'ONG Think Peace, organisatrice de l'événement, a expliqué que cette formation avait pour but d'éclaircir les concepts, aspects, notions et principes essentiels à la conduite des prêches. L'objectif final est de prévenir le dérapage potentiel dans les discours religieux.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la chronique Zoom sur d'aujourd'hui, nous parlons du réveil pendant ce mois de Ramadan, un rituel souvent pénible pour certains jeûneurs qui se retrouvent finalement privés du souhour, n'est-ce pas, Lala Yahara Touré?
Abdoulaye, mon cousin, peut nous en dire certainement quelque chose. Lui qui, pour le réveiller depuis le début de ce mois de Ramadan, il faut mobiliser 3 contingents. Il a malheureusement fait les frais de sa négligence légendaire ce matin. Je vous explique. Comme à l'accoutumée, sa tante Bintou alla taper à sa porte car le repas était presque prêt. « Abdoulaye, lève-toi, c'est bientôt l'heure de manger, » dit-elle. Malin qu'il est, il répondit. « Ah, tante Bintou, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Hein. Je vais roupiller encore 5 petites minutes. J'arrive. » Il s'est remis confortablement dans son lit et continua à ronfler. 10 minutes plus tard, c'était au tour de son cousin Adaman de s'y essayer. Il le secoue énergiquement et lui dit. « Tchédjou, si tu ne viens pas, nous on va manger. Hein. On t'a assez attendu là. « Je viens, j'ai une montre. Je vois l'heure, donc ne fais pas comme s'il était 9h. » dit Abdoulaye. sommeil sans même changer de position. Les autres ont alors mangé et sont retournés dormir. Quelques temps après, voilà Abdoulaye qui sursaute de son lit et il était 11h cette fois-ci. Le mal était déjà fait, fidèles auditeurs. N'est-ce pas que vous avez un Abdoulaye chez vous aussi?
8h10, voilà qui m'en font à cette édition qui vous a été présentée par Imrana Akilomega. Merci de l'avoir suivi. Le citoyen est le premier moteur d'une gouvernance vertueuse dans une société donnée, indiquent des experts en gouvernance. Le citoyen intervient dans la vie de la cité, la protection de l'environnement, le train de vie de l'État, entre autres. Au regard de ses devoirs, est-ce qu'il a l'obligation de s'acquitter de ses exigences? L'État peut-il le soumettre au paiement de taxes? La citoyenneté a-t-elle des limites? Des experts de collectivités, de gouvernance et de lois juridiques se sont prononcés sur la question dans le magazine Gouvernance et citoyenneté, réalisé et présenté par Studio Tamani avec le concours de nos correspondants locaux. La culture de la citoyenneté permet à chacun de s'inscrire dans un projet commun, avancent les experts en gouvernance. Le citoyen est aussi le détenteur d'une part de la souveraineté politique et de la possibilité de choisir le gouvernant et le mode de gouvernance. Mais pour asseoir cette politique citoyenne, ce dernier doit d'abord s'acquitter de ses devoirs, dont le paiement des taxes. De son côté, l'État a l'obligation d'offrir des services sociaux de base, affirme Mme Samaké Fatoumata Traoré, experte en gouvernance.
Le rôle régalien de l'État, c'est d'offrir des services publics aux citoyens, notamment financer l'éducation, la santé, la justice, le logement et en tout cas tout ce qui est service public, la sécurité par exemple. Donc c'est la collecte des impôts et des taxes qui vont constituer des recettes pour l'État pour financer les différents programmes de développement.
Pourtant, de plus en plus, les citoyens sont réticents à payer les taxes, notamment la taxe pour le développement régional et local, regrettent des acteurs des collectivités territoriales. Selon eux, pour recouvrer ces taxes, les collectivités utilisent souvent la pression. À Mahina, de la région de Kai, la commune est à moins de 30% de recouvrement de la taxe de développement régional et local, regrette Boubacar Konaté, secrétaire général de la mairie de Mahina.
La loi a donné une fourchette, je crois que c'est entre 1500 et 5000. Chaque collectivité peut délibérer, voir dans cette fourchette le montant que tu es censé, que tu es capable de recouvrer. Mahina, on a de sérieux problèmes par rapport au recouvrement de la TVA. En 2023, nous avons passé par la gendarmerie pour obliger les gens à payer et le taux de recouvrement est allé jusqu'à 75%. En 2024, on a laissé les soins aux populations de venir payer librement leurs terres.
Pourtant, des citoyens de Ségou, Yoroso, Mopti et Bamako reconnaissent l'utilité du paiement des taxes. Pour certains, cette réticence s'explique par le fait que les autorités ne fournissent pas des services sociaux de base pour les citoyens avec les fonds collectés. Ils ajoutent aussi le manque de transparence de la gestion des fonds.
Ici à Ségou, on paie les taxes parce que c'est un devoir pour chaque citoyen. Et les taxes servent à développer la commune.
On ne voit pas l'impact positif, n'est-ce pas, sur notre environnement. Et que la population sache là où l'argent collecté va et qu'il y ait un compte rendu de ce qui a été collecté.
Ces impôts-là contribuent aussi au développement de notre propre localité, comme les CESCOM, la mairie, les agents des collectivités.
Sans cet engagement citoyen, ni l'État, encore moins les collectivités, ne pourront faire face aux dépenses publiques, affirme Boubacar Konaté, secrétaire général de la mairie de Mahina.
Je dirais tout simplement que sans taxes, il n'y a pas de collectivité, parce que les collectivités vivent des taxes. Donc la première ressource des collectivités, c'est les taxes.
La citoyenneté n'a pourtant pas de limites, souligne des juristes. Selon Ibrahim Ben Mamata Touré, le Mali ne dispose d'aucune loi générale limitant l'action citoyenne.
Il n'y a pas une loi générale qui parle de ça. Chaque taxe est accompagnée par une règle de droit, une règle légale qui définit les modalités, les taux, la durée. Donc, partant de là, les citoyens se conforment à cette règle et c'est cette règle-là qui s'applique.
Pour concrétiser une participation citoyenne aux actions de développement, l'État doit rétablir la relation de confiance avec les citoyens, conclut des experts en gouvernance.